mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 176. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et plein de choses. Et de l'autre côté du poste, j'ai notre exilé, Benjamin François, alias la double nationalité.
Alias exilé, je sais pas, il y a une sorte de connotation bizarre. Tu peux dire émigré, je suis émigré.
Émigré, mais oui, non, t'es pas du tout exilé. Au contraire, tu reviens quand tu veux et je pense qu'un jour tu reviendras.
Alors ça,
je sais pas pourquoi.
Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je suis bel et bien émigré dans un pays où il fait très très chaud en ce moment. Alors je pense que notre monteur va devoir faire des miracles pour qu'on n'entende pas trop la clim qui est en train de tourner au-dessus de moi. Mais voilà, sinon. Oui,
on embrasse Baptiste.
Voilà, on embrasse Baptiste. Et puis, il faut le dire, toi et moi, on ne s'attendait pas forcément à enregistrer aujourd'hui.
Oui.
Et puis au final, on est d'humeur plutôt badine. C'est pas le pire dimanche qu'on ait vécu.
Alors, il faut expliquer. Oui, c'est pas le pire dimanche qu'on ait vécu, c'est clair. Ça fait 2 semaines qu'on se disait, allez, on enregistre. Et en fait, ou moi, je disais plutôt, allez, on enregistre. Et en fait, on ne trouvait pas l'énergie qu'il fallait parce qu'on était un peu déprimé par la situation. À la situation politique, on enregistre juste après la fin du second tour.
Voilà, on a eu les résultats il y a 4 heures.
Oui, il y a 4 heures. Le moral va mieux.
Oui, globalement, ça aurait pu vraiment être pire. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire.
Pas triomphaliste, mais moi, je ne serai satisfait que quand Lionel Jospin sera redevenu Premier ministre. Parce que c'est un peu sa destinée, c'est tout ce qu'attend la France. Benji, toi, de ton côté, est-ce que l'humeur va mieux?
Ah oui, globalement, ça va beaucoup mieux. Je t'avoue que j'étais plutôt dans une hypothèse assez pessimiste. Et quand les résultats se sont affichés, j'ai eu un gros soupir de soulagement. Alors, comme tu dis, on reste vigilant parce que mine de rien, le RN a quand même doublé son nombre de députés. Donc, c'est quand même une victoire qu'un goût amer. Mmh. Mais ça reste une victoire, quelque part. On aurait pu vraiment être dans une situation bien pire que celle dans laquelle on est. Donc, écoute, on va savourer le moment tout en restant vigilant, comme tu le dis. Et puis voilà, au moins, on va se coucher en un peu plus serein ce soir.
Je repense à Super Ciné Battle et le dernier épisode qu'on a enregistré avec Steph, qui était juste, on l'a enregistré juste entre les deux tours. Et évidemment, l'humour était plus vénère Herzog. Voilà. C'était un peu plus. Mais en même temps, vu qu'on a. On a quand même un canevas, c'est-à-dire on parle de cinéma et surtout pas de politique. Tout s'est bien passé, évidemment, l'épisode oui. Ne s'en est pas ressorti.
Et puis le cinéma n'a rien à voir avec la politique, de toute façon.
De toute façon. Mais oui, c'est vrai que pour After Eight, on ne se sentait pas de faire « Ouais, alors, qu'est-ce que tu vas ? J'ai joué au Final Fantasy dans l'ordre. »
Oui, voilà. Ouais.
Alors qu'il se passait tous ces trucs, ces événements en France. Ce que je tiens à dire d'abord, et pour commencer le podcast, c'est d'abord remercier tous les gens qui donnent sur patreon.com/RPU. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que s'il y a une collecte pour payer un billet d'avion à Cyril Hanouna pour qu'il se casse, je m'engage solennellement. S'il y a une collecte pour qu'il se casse, je veux bien payer.
Ben alors, moi, je suis désolé, Daniel, mais c'est un non-sens. Le type, il est millionnaire grâce à l'argent que lui donne Bolloré.
C'est vrai.
Honnêtement, il a plus besoin d'un coup de pied au cul pour se casser que d'argent.
Oui, voilà, exactement. Le mec n'a pas besoin d'argent. Mais symboliquement, moi, je suis prêt à participer pour qu'il se casse.
Mais en revanche, une petite initiative pour lui botter le cul pour qu'il s'en aille, ça, y a moyen. Et il s'y est engagé. Hein. Il a dit qu'il quittait la France si le NFP arrivait en tête. Donc voilà. Hein.
Et globalement, il faut se dire un truc, c'est une réflexion qu'on doit à Hollande François. Au soir de mai 2012, donc quand il a été élu, il a réuni son état-major et il a dit « Regardez quand même, on a gagné de peu, c'est pas évident, la semaine d'après peut-être qu'on n'aurait pas gagné, parce que c'est gagné de courte tête en plus en 2012 ouais. face à Nicolas Sarkozy. Et regardez aussi... face à qui ? C'est-à-dire, ils avaient tout, ils avaient l'essentiel des gros médias, Bolloré était déjà là, enfin, je veux dire, les empires des médias, il y avait les Lagardère, les Bolloré, ils étaient tous, les Figaro, enfin, je veux dire, tous les gros médias tenus par toujours les grands bétonneurs et les grands, enfin, voilà, TF1.
Toujours les mêmes, oui, oui.
M6. Et quand tu regardes ce qu'il a gagné face à tout ça, tu te dis ouf. Mais cette année, je pense que la victoire a encore plus à main parce que c'était très antagoniste et j'ai vu beaucoup plus de gens se déchirer qu'avant. J'ai vu beaucoup plus de gens avoir peur qu'avant. Pour avoir beaucoup parlé, parce que de ma vie personnelle, comme je disais dans Super Ciné, je m'investis pas de frontalement parce que ma voix n'est que la mienne. Hein. Je suis pas Squeezie et je suis pas Mister MV. Mais bon, j'essaye de discuter, je parle toujours à les mecs qui font, même ceux qui tractent pour les autres, quoi. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Et oui, je pense qu'on était vraiment dans une campagne ultra antagoniste et où tous les rapports de force ont réussi à être inversés, c'est-à-dire les rapports de force, mais aussi ils ont pilonné la gauche pendant 3 semaines. C'était dur à voir et c'était assez incompréhensible.
L'immense majorité des médias mainstream ont pilonné la gauche. C'était incompréhensible, quoi.
Ouais. Alors quand on dit, les gens ils disent oh là là, il faut privatiser le service public et tout ça, tu te dis non les gars, c'est le dernier. Il y a au moins un média, tu sais que globalement il s'engage à la neutralité. Tu peux croire en sa neutralité ou pas, mais en tout cas il s'engage à la neutralité et c'est pas un média qui appartient à un industriel. Et il faut le chérir. Et je pense que ça c'est une des grosses leçons qu'on va devoir prendre après tout ce qui s'est passé, c'est la vigilance auprès des médias d'extrême droite, à savoir Europe 1, CNews et tous les autres, quoi. Et
ça veut pas dire qu'on exonère Radio France ou France Télé, hein. Ça fait attention.
Non, bien sûr.
Je suis d'accord qu'il faut absolument préserver le service public. Ça veut pas dire qu'on excuse des choses qu'on a pu voir ou entendre pendant cette élection.
Je pense qu'il faut, je pense que c'est ça vraiment. Il faut remettre de l'ordre dans la maison, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai très mal vécu ces derniers mois d'un point de vue personnel, essentiellement à cause de ça, en fait. C'est-à-dire que ça me minait le moral. Et j'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru.
Eh ben, je te cache pas que moi aussi, le moral n'était pas au meilleur. Et que là, en novembre, le moral va être compliqué aussi. Donc, je suis déjà content qu'on ait passé ça. Ça me permet d'aborder le novembre qui approche de manière un peu plus optimiste, même si je reste d'un naturel pessimiste, parce que je suis comme ça, mais voilà.
Je pense à mon ami Joe, qui a fait beaucoup de campagnes contre qui tu sais aux États-Unis. Il est en plus dans un swing state, et il m'a fait, la dernière fois, il m'a dit « The bullet went close », et là, « even closer », tu vois, c'est vraiment ça. Faut jamais considérer que c'est acquis. Et pourtant, c'est rare qu'on parle frontalement autant de politique, Benji et moi, mais on voulait quand même préciser ça, c'est qu'il y a pas de triomphalisme, il y a pas de tout ça, on est soulagé pour un certain temps, mais il faut être vigilant. Je pense que la vigilance c'est le mot clé de ce podcast.
Là avec autant de députés RN à l'Assemblée, clairement la vigilance est de mise, oui.
Et comme on a besoin d'un petit peu de silence, je sais que on va parler de Quiet Place.
Mais quelle transition, bravo.
Je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'à 5 gangs d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
Ben, je savais pas quoi dire d'autre.
Ah oui, non, mais oui, on a tous les deux vu Quiet Place jour 1, avec donc Lupita Nyong'o. Film préquel qui se déroule dans l'univers de Quiet Place. Et écoute, je pense qu'on a tous les deux globalement le même avis dessus, c'est que c'était pas un film détestable. C'est un film, moi personnellement, devant lequel j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est aussi un film que j'aurais oublié dans un mois, parce que c'est globalement un film qui n'apporte rien, en fait. On avait déjà tout dans le flashback du deuxième, tout ce qu'on avait besoin de savoir sur comment étaient arrivés ces aliens, donc sensibles au bruit. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce préquel? Franchement, non. Franchement, je pense que c'est un film oubliable, qui n'était pas mauvais, mais qui n'avait pas besoin d'exister. Globalement, c'est mon opinion sur ce film. Ce qui est dommage, parce que j'aime beaucoup Lupita Nyong'o sinon, qu'en plus, il y a un chat qui est limite le principal protagoniste du film. Alors moi, j'étais content à chaque fois que je voyais le chat. Mais sinon, ouais, c'est globalement un film qui était oubliable. J'ai apprécié qu'il existe parce que j'ai eu droit à la clim pendant les 2 heures de la projection, quoi.
C'est clair. J'ai trouvé ça un petit peu vain, parce que ça faisait un petit peu... on essaye de faire notre Cloverfield, c'est-à-dire ah ouais, notre monde est si intéressant là, et si unique qu'on va essayer d'en développer, de le faire un truc thématique et tout. Je trouve pas que les méchants en fait soient suffisamment intéressants de tout cet univers. Genre c'est le point faible qu'ils peuvent pas aller dans l'eau. Je trouve ça un peu ridicule.
Puis il y a toujours ce truc aussi de ces méchants qui sont extrêmement sensibles au bruit, mais qui eux-mêmes font un bordel de tous les diables quoi. J'ai toujours trouvé ça assez bizarre.
Jamais ils font du bruit eux-mêmes qui les tuent. Tu comprends pas trop. Mais écoute, le truc, le concept, c'était quand même de mettre en scène deux nouveaux personnages. Et en fait, j'ai compris que c'est plutôt le troisième personnage le plus important, à savoir New York, en fait. C'est vraiment un film pour les amoureux de New York, puisqu'on voit les quartiers avec précision. Ils sont nommés, les quartiers. On voit comment ça. On voit une espèce de petite balade dans le sud-est, le sud-est de Manhattan.
Et est-ce qu'on peut dire que je comprends pas pourquoi ils démolissent les ponts? Parce que c'est pas comme si les aliens avaient uniquement débarqué à Manhattan. En gros, il y en a partout. Ça sert à quoi de péter les ponts, quoi?
Oui, et s'ils sont.
Ça, j'avoue que j'ai pas pigé. À part niquer la population, ça servait à quoi?
Et s'ils sont allés à Manhattan précisément, c'est qu'ils avaient des moyens d'y arriver. Hein. Ils n'avaient pas besoin de pont pour y arriver. C'est plus pourquoi ils auraient choisi Manhattan express.
Et voilà, j'ai pas vraiment compris, parce qu'en plus, tu le sais, en ayant vu les deux premiers films, que les aliens, au final, il y en a partout. Il n'y en a pas juste à Manhattan. Donc...
Il y en a sur des îles, il y en a sur des pays.
Pourquoi péter les ponts? J'ai toujours pas pigé, en fait.
Mais je repense avec nostalgie au Quiet Place premier, qui m'avait fait bonne impression, parce que j'aimais bien la... Alors évidemment, il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est quand même la famille un peu bon chic, bon genre, tu vois, c'est quand même un couple à la ville, et ils ont un enfant, et puis comme ils ont perdu un enfant, bah ils en refont un. » Enfin, tu vois, il y a un truc un peu très très moral là-dedans. Mais moi, la séquence rappelle-moi le nom de l'acteur principal.
John Krasinski.
John Krasinski est producteur et réalisateur. John Krasinski dit je t'aime en langue des signes à sa fille. Moi, à chaque fois, ça m'arrache une petite larme.
Moi, j'avais beaucoup aimé le premier. Et même, j'ai bien aimé le deuxième aussi. Hein. J'ai pas de problème particulier avec les deux premiers films.
Je trouvais ça un petit peu inutile. Est-ce que tu me permets de parler de Legacy Quell? Parce qu'on en avait déjà fait un sujet sur Legacy Quell et il y en a une sacrée qui est sortie là cette semaine.
Je t'en prie, vas-y. Alors, pas de spoiler, je ne l'ai pas vu, si je pense bien au film dont tu peux parler.
Bon, il n'y aura pas de spoiler. Tout ce que je vais dire, tu le sais. C'est Beverly Hills Cop.
Voilà, donc c'est bien celui-là.
Axel F., qui est donc le quatrième Beverly Hills Cop.
Ouais, une exclue Netflix.
Complètement produit par Netflix et... J'y ai pris plaisir.
Ah, bah c'est bien.
J'y ai vraiment pris plaisir.
Moi, tu vois, j'étais super pas enthousiaste et pas optimiste. Donc, tu vois, entendre ça, ça me fait plaisir. Du coup, il va falloir vraiment que je le regarde.
Moi, j'ai vraiment pris je me revoyais en train de regarder La 5, en train de regarder Beverly Hills Cop, tu vois.
Ah.
Ça a capté ce truc.
Quel est ton rapport avec les précédents films? Parce que sache que moi, les deux premiers, j'adore. Peut-être même plus le deuxième que le premier. En revanche, le troisième, c'était une de mes plus grosses déceptions au cinéma. Je pense que je l'avais raconté. C'était le premier film que j'avais vu au ciné. Et en sortant, je m'étais dit, putain, c'était nul. Parce que j'étais enfin arrivé à ce stade où on n'aime pas tout, en fait.
Je l'ai vu en salle. C'est le troisième aussi. Et le troisième est nul, en fait. Le premier est vraiment pas très intéressant. Enfin, c'était vraiment du... Ah, bah, ça a beaucoup rapporté avant, bah, donc on va en refaire une couche. Celui-là est meilleur que le troisième. Je dirais pas qu'il est meilleur que le 2 et le 1.
Okay.
Mais il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que Eddie Murphy a quand même toujours son énergie comique et il donne l'impression d'avoir envie d'être là.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il le porte bien, il a beaucoup d'énergie, il est sympathique. Il y a vraiment une histoire de base, à savoir, il y a sa fille qui est en danger. Évidemment, il a été un mauvais père, tu peux t'imaginer, parce qu'il pensait à la police. Mais il faut revenir tous les personnages importants, à savoir les flics, bon, que tu connais.
Ouais, ouais.
Je vais pas te spoiler, mais bon, si tu vois la liste de casting.
Alors, je savais que Taggart revenait, j'étais pas sûr pour Rosewood.
Et Rosewood revient.
D'accord.
Et aussi, une autre personne qui est très importante à mon cœur, c'est Philippe.
C'est Serge, tu veux dire.
Serge, oui, mais faut voir comment. C'est surtout le doublage français qui l'a sacralisé. Il fait « Philippe !» que fait Eddie Murphy en le voyant. Et à chaque fois, depuis, moi, je dis toujours « Philippe !» à cause de lui.
Mais attends, pourquoi? Je comprends pas pourquoi il s'appelle pas Philippe.
Mais quand il le voit, il lui dit Philippe, alors que c'est pas du tout Philippe.
Ah bah, je me rappelle pas du tout de ça. Moi, je me rappelle de Serge.
Mais il l'appelle pas Serge, justement.
D'accord.
Il l'appelle Philippe. Je crois, hein, mais c'est peut-être un détail de mes souvenirs. Hein, je ne sais pas. Ça se...
Oui, parce que moi, je me rappelle pas du tout de ça. C'est marrant.
Et ouais, non, franchement, j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Je trouvais que les scènes d'action étaient bizarrement rigolotes. C'est-à-dire que, les scènes d'action, bah, c'est du Beverly Hills, c'est-à-dire que... Beverly Hills Cop.
Ouais.
Cop. C'est qu'il faut qu'il y ait de la basse, faut qu'il y ait un peu de baston, mais surtout des courses-poursuites où les choses se cassent et où tu montres que le flic, il casse tout autant en poursuivant le mec que s'il n'existait pas, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, qu'il y ait de la casse sur le chemin. Et je trouve que les courses-poursuites avec de la casse, c'est vraiment la marque de fabrique de Beverly Hills Cop. Et il y en a beaucoup. Il faut beaucoup de voitures de flics aussi qui se font dégommer.
Oui.
Un peu comme les Blues Brothers. Et ben, il y en a beaucoup. Et donc voilà. Écoute, tu seras pas déçu, je pense pas.
Très bien.
C'est vrai. J'ai passé un bon moment. Ça, Joseph Gordon-Levitt, je suis content de le voir parce qu'il est pas mauvais acteur, il le joue bien. Et il y a vraiment des scènes assez rigolotes ensemble.
Mais moi, j'ai revu le premier hier, tu vois, pour me préparer à cette Legacy Quell. Donc je vais me remettre à jour. Alors, je t'avoue que j'appréhende à fond de revoir le 3 parce que je l'avais déjà pas aimé à l'époque. Alors, autant dire que là.
Mais skip le 3. Pourquoi t'es obligé?
Bah, parce que tant qu'à faire, on va se refaire les 3 avant de regarder le 4e. Hein,
qu'est-ce vous entendez? Il peut pas s'empêcher.
On ça. Est comme ça, nous.
Il peut pas s'empêcher.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
Est-ce que... De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui?
Alors, j'ai joué pendant les 15 derniers jours un semi-open world que j'avais eu gratuit sur le PS Plus et que j'avais gardé de côté en me disant pour un moment où j'aurais vraiment besoin d'un truc idiot et distrayant. Et donc, j'ai enfin joué à Man Eater. J'ai même platiné Man Eater, sache-le.
Alors, ben écoute, j'ai platiné Man Eater puisque moi, c'était un de mes jeux du confinement.
Ah, ben je comprends.
Et je crois que je l'ai énormément recommandé dans After Eight et Super City Battle parce que pour moi, c'est un action RPG hommage à tout ce qu'on pouvait avoir comme action RPG à la japonaise. Parce que tu passes des niveaux, t'as des trucs cachés.
C'est vrai.
Il y a vraiment un design un peu à la japonaise. Tu débloques des zones. Enfin, vraiment, c'est très malin comment c'est fait.
C'est vrai, ouais. Donc voilà, 6000 open world, parce que comme tu l'as dit, il faut débloquer les zones. Tu n'as pas accès à tout dès le début. Mmh. Et puis, une fois que t'as tout débloqué et que t'as atteint ton niveau maximal, t'as quand même un sentiment de puissance qui est assez phénoménal. Alors, on le rappelle, Man Eater, donc c'est un jeu dans lequel on joue un requin géant. En fait, depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte, et donc plus on gagne de niveau, plus on vieillit et plus on devient surpuissant. Et c'est vraiment extrêmement agréable. Alors, un des petits bonus, c'est que comme on évolue dans des eaux extrêmement polluées et aussi à cause de la radioactivité, on acquiert des pouvoirs absolument improbables. et ça, c'est très rigolo. Il y a donc le petit côté super-héros à la Marvel qui, quand il est soumis à de la radioactivité, au lieu de crever d'un cancer, bah, il devient surpuissant avec des pouvoirs magiques. Donc, Man Eater, il y a aussi ce côté super drôle qui est que le jeu est vu sous l'angle d'un documentaire qui, en VO, en plus, est narré par Chris Parnell. Alors, Chris Parnell, c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui est très connu dans le monde de la... dans le monde du doublage aux États-Unis. C'est aussi un acteur, hein. Il intervient aussi dans 30 Rock. C'est lui le médecin complètement bidon dans 30 Rock. Chris Parnell, c'est lui qui joue Cyril dans Archer. Donc c'est vraiment une voix super connue. Et dans son documentaire, il a plein de commentaires loufoques, extrêmement drôles, c'est vraiment super bien écrit. Alors, le jeu n'est pas parfait, j'ai quelques reproches, notamment sur PS5, techniquement, il y a quand même des passages assez honteux où le framerate s'écroule pendant plusieurs secondes, avec limite des freezes, c'est genre, tu te demandes où t'es. Il y a quelques bugs un peu chiants, et puis il y a aussi le fait que les autres espèces ne s'entretuent pas entre elles. Et ça, je t'avoue que c'est un côté qui est un petit peu relou, quand en fait, toutes les espèces un peu agressives t'attaquent toi, mais ne s'attaquent pas entre elles, donc t'as des orques qui vont ne rien faire à d'autres espèces, mais t'attaquer toi. T'as des requins alors que t'as des humains qui se baladent dans l'eau, qui vont rien leur faire, mais qui vont t'attaquer toi. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu chiant quand même. Ça, c'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu l'immersion. Mais sinon, pour le reste, ça reste une expérience vraiment extrêmement agréable et super fun. Parce que, ouais, malgré quelques quêtes un peu répétitives où on dit « Allez, va buter 10 humains là, allez, va buter 10 humains là », au final, c'est quand même super jouissif d'aller boulotter des gens qui se mettent à hurler « mais qui restent dans l'eau, qui sont complètement cons. Donc, il y a un hommage assumé aux Dents de la Mer derrière ça. Il y a plein de petites références à droite à gauche qui sont plutôt bien vues et qui restent super drôles. Donc, pour un jeu offert avec le PS Plus, alors je te cache pas que j'ai pas du tout fait le DLC. Moi, j'ai fait les 10 heures de la campagne classique. Ça m'a suffi pour platiner le jeu et ça m'a suffi. Je pense pas avoir besoin de faire le DLC. Mais pour un jeu, voilà, qui était...
Le DLC, j'y ai joué. Ouais. Il est pas mal, mais par contre... Bah, il faut une demande du super level si tu veux ouais. 100%, bien sûr.
C'est more of the same, hein, je pense, globalement. Donc, je pense que j'étais satisfait avec ce que j'avais fait, voilà.
Bah, t'as une nouvelle zone, et puis... tes pouvoirs sont encore plus grands.
Ouais.
Tu peux sauter encore plus haut, puisqu'un requin peut sauter, c'est, alors bien, oui, c'est bien connu.
Pour le platiner, il y a quand même des moments où il faut un peu réfléchir et réussir à faire des sauts un peu grand guignolesque. Donc non, c'est globalement super rigolo et comme je l'ai dit, ça se platine en 10 heures. Donc c'est un petit plaisir et c'est super agréable pour un jeu qui était franchement offert dans le PS Plus, c'était très très agréable.
Et il y a un truc que j'aime beaucoup quand même, tu parlais de l'histoire de l'aspect documentaire, mais c'est quand même l'histoire d'une espèce de paternité toxique. C'est un père qui répète à son fils, allez, tu vas, tu sais, il y a les bouts de documentaire où il fait, allez, tu vas bouffer de la viande quand même, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et son fils, il est genre, si on arrêtait là et on rentrait à la maison.
Ouais, ouais.
Et puis, au fur et à mesure, le requin, il devient de plus en plus dévorant et il dévore des morceaux d'humains, hein, de ces mecs. Et
bah, il dévole des morceaux du père, ouais.
Des morceaux du père, et le père, il se dit, ah là là, je vais quand même prendre ma revanche. C'est vraiment, il y a un petit côté grand cartoon, grand guignolesque, qui est vraiment délirant. Et sur un rapport, genre, vraiment, il est en train de forcer son fils à essayer de partir à la chasse au requin, alors que le fils, il s'en bat les steaks, il n'a pas envie.
Ah, tu sens qu'il n'a pas envie d'être là, ouais.
Et c'est vraiment un truc assez réussi dans le...
Dans l'écriture.
Dans l'écriture, ouais, alors que tu t'attends pas à ça de la part de Maniteur, qui était mon jeu coup de cœur, je viens de vérifier, du...
Du confinement, donc 2020
du 14 décembre 2020.
Très bien.
J'en parlais dans Super Ciné Battle 131.
Écoute, je sais plus quand il a été offert dans le PlayStation Plus, mais si vous l'avez dans votre back catalogue et que vous n'y avez pas encore joué... Ça peut être le moment.
C'est vraiment le meilleur action RPG avec un requin.
Ça m'a rappelé Evo, un jeu Super Nintendo,
oui,
auquel j'ai pas encore assez joué. Malheureusement, j'ai joué un petit peu, mais je l'ai pas encore terminé. Et je sais que c'est un jeu cher à ton cœur. C'est un jeu d'Enix sur Super Famicom où on commence en jouant une amibe et où on évolue jusqu'à devenir une créature un peu plus intelligente. Mais c'est un jeu qu'il faut que je fasse absolument.
C'est un de mes jeux préférés ever, même, je dirais. Evo. Mm. C'est vraiment un action RPG aussi où tu... Bah, mais t'es une amie, mais par contre, tu passes les différentes générations. C'est-à-dire que tu deviens dinosaure à un moment, et dinosaure, tu évolues. Voilà.
Voilà.
Et pour réussir à devenir un homme, c'est genre quasiment un peu... J'ai jamais réussi, moi.
Typiquement le jeu que j'aimerais voir débarquer sur le Nintendo Switch Online, mais je pense que ça n'arrivera jamais, malheureusement.
C'est les licences Enix de cette époque. Mm. Mais ça serait cool parce que la cartouche vaut une Cosmo Blonde.
Mais un remake, ce serait cool. Square Enix, si vous nous écoutez, vous avez déjà fait le remake de Live Alive, qui était une excellente idée. Putain, un remake de Evo, voilà quoi, moi je prends. Hein.
Ouais, ce serait bien, Evo Live. Benji, de quoi tu voulais parler d'autre? Parce que moi, je peux te dire, j'ai vécu un grand moment sur Elden Ring, moi.
C'est de ce côté qu'il faut regarder.
Voyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
Casse-toi, sale gominé.
Ah bah, je t'en prie, parle-nous d'Elden Ring. Tu sais, un jeu que je n'ai toujours pas commencé. En revanche, je me rapproche de commencer... et ça y est, j'ai oublié son nom. L'autre jeu FromSoft qui n'est pas Sekiro et qui n'est pas Dark Souls.
Bloodborne,
voilà, c'est ça.
Qui est peut-être le meilleur jeu.
Je m'en rapproche. Là, j'avais besoin de d'amener la démocratie à des pays qui n'en avaient pas envie, donc je joue à un Call of Duty pareil offert sur le PS Plus.
Pourquoi tu t'affliges ça?
Bon, parce que je les ai. Je me dis faut quand même que je me renseigne pour savoir quels sont ces jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires. Donc je joue à Black Ops 3 et c'est vraiment pas génial.
Est-ce que ça a pas perdu un peu de sa hype parce que j'en entends jamais parler? Je vois peu de gens en parler autour de moi.
Je pense que c'est la bulle de filtrage parce qu'on fait pas partie de la cible, mais je pense que ça se vend toujours beaucoup. Surtout pour le multi, je pense.
T'es sûr? Parce que vraiment, j'ai l'impression que ça se vend moins qu'avant.
Alors, je pense que si ça se vendait vraiment moins qu'avant, Microsoft, ils n'auraient pas dépensé des milliards pour acheter Activision Blizzard. Parce que, honnêtement, hein, c'est pour ces licences-là qu'ils les ont rachetées.
Peut-être, c'est la bulle de filtrage, t'as raison.
Je pense.
Mais écoute, dans Elden Ring, t'es au courant qu'il y a un DLC qui est sorti?
Alors, j'ai entendu parler de ce DLC, oui.
Alors déjà, pour atteindre le DLC, mamma mia, c'est compliqué. Alors,
oui, parce que si j'ai bien compris, tu n'y as pas accès juste en l'achetant. Il faut avoir atteint un certain niveau. Et ben, battu, ça atteint un certain mob.
Shadow of the Erdtree Tree, tu dois battre deux boss importants que j'avais buté dans ma première partie, mais je me suis dit, on va reprendre à zéro, on va faire NG+.
Alors, c'est une question que j'avais justement. Est-ce que c'est pas le genre de jeu archi dur à reprendre des mois plus tard?
Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai repris de zéro, parce que je me suis dit, c'est mieux.
Je me disais aussi.
C'est bizarre, parce que les vidéos que tu vois sur Internet, t'as pas la vidéo qui te dirait, genre, comment reprendre Elden Ring si vous avez tout oublié, parce que j'avais tout oublié.
Ouais, ouais.
Genre, comment appeler le cheval, comment prendre l'épée à deux mains. Enfin, tu vois, il y avait plein de...
Ah ben, c'est le genre de jeu, et moi, je te comprends tout à fait, hein, c'est le genre de jeu où si t'as fait une pause de quelques mois, je suis obligé de recommencer du début, parce que sinon, c'est pas possible.
Donc, j'ai repris du début, mais à partir d'un NG+, donc j'avais tout mon build et tout, j'étais costaud.
Mm-hmm.
Et en 2-3 jours, j'ai réussi à re-atteindre le point pour avoir le DLC.
Pas mal.
Et c'était pas évident. Mm. C'était pas évident parce que vraiment, il y a des trucs très, très, très compliqués. Genre, à un moment, il faut réunir les deux médaillons d'une face d'un truc qui t'arrête super loin et ensuite descendre dans les douves de l'humanité. Ensuite, il faut que tu remontes et puis c'est très, très compliqué. Ou alors, tu envahis deux fois un univers différent. Alors, c'est un truc que j'aurais jamais trouvé à l'époque. Et du coup, il te fait une clé et tu peux aller presque directement voir le boss.
Mm-hmm.
C'est hardcore. C'est vraiment hardcore. Et surtout, le boss qu'il faut buter, quoi qu'il arrive, pour avoir à atteindre le DLC, qui s'appelle Mog, il est costaud. Il est vraiment genre, je pense pas qu'il y ait 50% des gens qui ont acheté le jeu qui l'ont buté.
Je crois que j'avais lu une stat qui disait que globalement, il y avait moins de 40% de joueurs qui avaient de quoi débloquer le DLC parce qu'ils n'avaient pas battu Mog.
D'ailleurs, dans les derniers jours, avant sa sortie, tu voyais le nombre d'utilisateurs a augmenté en flèche parce que les mecs se disaient « Merde !»
Il faut battre ce gars-là, ouais.
Il faut battre ce gars-là. Et donc, je l'ai rebattu sans trop de problèmes. Enfin, quelques tries, mais rien de phénoménal.
Mm-hmm.
Et là, tu arrives dans le DLC. C'est une nouvelle map. C'est une nouvelle contrée. Et c'est genre pas une nouvelle map. Il y en a plein des maps différentes.
Mmh.
Et t'arrives dans la plaine et tu descends. Et là, t'as un mob qui ne m'a pas tué, mais pas loin. Mais genre, c'était juste un mec dans l'herbe. C'est juste un mec. Ils ont mis un mec quasi qui peut te buter direct. Et je pense que la majorité des gens vont arriver. Ils vont être tout jouasse dans cet univers et tout d'un coup, ils vont se prendre le mob. Mais vraiment, c'est un petit soldat à la merde, mais qui a un méga ninja et qui donne 10 000 garde-coups et c'est pour ça qu'il te bute. Et en fait, tu te rends compte que dans cet univers-là, tous les levels que j'étais niveau 70, bah, ça sert pas à grand-chose en fait.
Mmh.
Parce que ce qui compte ici, c'est des espèces de petites cendres que tu récupères et qui te donnent une espèce de protection et de bonus d'attaque. Et si tu as tous les bonus de défense, ça fait peut-être genre 50% de défense en plus. Et si tu as tous les bonus d'attaque, ça te fait peut-être 100% de défense en plus, d'attaque en plus.
D'accord.
Mais je dis ça globalement. Mais en fait, tous ces trucs scale, c'est-à-dire que faut récupérer beaucoup au début et ensuite à la fin c'est moins important. Mais si tu ne les récupères pas, tu es une espèce de victime. Tu vas te faire défoncer.
D'accord.
Par tous les ennemis environnement. Et bon, maintenant, ça c'est dit, c'est pour la difficulté, et la plupart des boss sont vraiment dégueulasses. On atteint le dégueulasserie plus ultime que j'ai vu de chez From Software, à savoir, tu sais que les boss, en général, 2P, comme on dit, deux phases.
Ouais.
Partie 1, partie 2.
Ouais, bah ça, je suis... Oui, j'ai joué à Sekiro, j'ai joué à Dark Souls, je connais.
Là, maintenant, ils lancent la partie 3.
Ah, quel enfer. Oh là là.
Et genre, t'es tout content d'avoir buté le boss, et là, c'est partie 3, et tu sais que tu vas te faire...
Tu sais que je déteste ça. Je trouve vraiment ça bidon hein, comme mécanique.
Eh ben oui, mais il y en a un seul qui l'a, mais alors, c'est dégueulasse. Mm. Mais sinon, globalement, c'est vraiment... C'est super jouissif. Et il y a, par exemple, un château qui a environ 4 manières différentes de sortir différentes du château,
mmh.
avec un intérêt à chaque fois, avec un boss à chaque fois, et c'est un des trucs les plus les plus enthousiasmants en termes de game design que j'ai vu depuis des années, quoi. Et je trouve ça même presque plus ouf à certains égards que Elden Ring premier du nom. Ils ont mis des strates entières de level design. Et du coup, c'est vraiment ce que j'aurais eu envie dans les deux derniers Zelda, en fait.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire des trucs où ce soit des pièges de ouf et des trucs un peu ardus. Ça veut pas dire que j'aime pas les temples dans le dernier Zelda. Mais je trouve que là, ils sont...
Ah, c'est pas pareil que des châteaux, ouais. On est d'accord.
Mais là, dans le dernier, en plus, ils ont vraiment assuré parce qu'ils sont vraiment intéressants. Mais là, vraiment, tu es dans une autre dimension en termes de ce qu'un jeu peut t'apporter, quoi. J'ai jamais revécu un château comme ça. Quand tu visites le château, tu peux aller dans les catacombes, tu peux aller sur le côté, sur la mur d'à côté. Même le mur d'à côté, c'est un château en soi. Et tu vas ensuite haut dans le clocher parce qu'il y a une espèce de cathédrale, mais tu peux ensuite aller dans les douves qui sont complètement foutues dans l'eau et donc du coup tu peux aller nulle part. Mais si tu trouves l'endroit pour virer l'eau, et ben ça te fait un donjon en plus. C'est fou en termes de design ce qu'ils ont fait. En tant que niveau, je sais pas si on peut dire un biome parce que c'est presque un univers entier. Je pense que c'est un des trucs les plus impressionnants que j'ai jamais joué. Vraiment, je mets ça sur le plan de Mario 64, des gros jeux de notre génération, de qu'on aura vécu, quoi.
Alors, je crois que tu avais déjà répondu à cette question, mais je vais la reposer quand même. Tu connais mon adoration pour Sekiro et ma détestation pour Dark Souls. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir un build dans Elden Ring qui te donne un feeling à la Sekiro et pas un feeling à la Dark Souls ?
Bah, il n'y a pas de feeling de Sekiro parce que ce n'est pas un jeu d'action en tant que tel. Mm-hmm. Mais par contre, le jeu a une versatilité assez intense, surtout dans le DLC, puisqu'il y a des nouvelles armes. Par exemple, il y a des armes qui sont... tu peux mettre deux épées dans une épée dans chaque main, tu vois. C'est vraiment pas du tout le même genre de gameplay.
Est-ce que c'est plus fonction des armes que des builds, du coup ?
Ah oui, c'est les... Bah, okay. Je considère que l'arme, c'est le build, parce que une arme, il faut pousser les statistiques qui poussent ton arme, en fait. Sinon, tu sais, par exemple, moi, j'ai une arme qui monte en force et en dex. Donc, je booste force et dex régulièrement parce que c'est ça qui augmente un peu la force de mes coups, même si dans le DLC, ça sert plus à grand-chose.
Donc, qu'est-ce que tu penses que, étant donné que j'aime Sekiro, mais je n'aime pas Dark Souls, qu'est-ce que tu penses que Elden Ring pourrait être pour moi ou pas du tout, en fait ? Est-ce que ça vaut le coup que j'essaye ?
C'est une autre philosophie. C'est le premier From Software à la Souls, où tu peux sauter, en fait. Mmh. Et tu peux sauter, t'as des phases de plateforme, t'as des phases d'exploration. C'est vraiment, il y a beaucoup de phases d'exploration pure. Il y a des phases où tu t'en as rien à foutre des combats et tu explores simplement.
Bon.
Et l'idée d'explorer est très, très, très importante dans Elden Ring. Parce que là, maintenant, t'as des espèces de forges. Ils ont remplacé, il y a des catacombes toujours, mais il y a aussi des forges. Et les forges, en fait, c'est un level design. Chaque niveau est digne de Mario 64. C'est, tu rentres par une entrée, et en fait, en général, ce que tu comprends, c'est que la porte de sortie ou ce que tu es venu chercher, le gros truc du donjon, de la forge, se trouve presque à l'entrée, sauf que tu n'y as pas accès. Et en fait, le niveau te fait faire un énorme tour avec plein de pièges. Évidemment, tu vas mourir 152 fois et tout ça, tu vas actionner des milliers de trucs. Et au bout d'un moment, tu vas voir que le chemin, il va te ramener vers l'origine et tu te dis « merde ». Et tu te dis « ah, c'était là, en fait ». Et c'est vraiment très, 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 très bien fait. Encore une fois, l'écriture est super de ce point de vue-là parce que cette espèce de truc qui macabre qui te font vivre une espèce d'odyssée macabre et tu sais pas trop pourquoi t'es là, et je trouve ça vraiment vraiment chouette, quoi. Donc voilà, je à certains égards je trouve que le DLC est encore plus intéressant. Il est extraordinairement vaste, j'ai toujours pas fini de le découvrir. Il me reste des parties de la map que je n'ai pas découvertes.
Mmh.
Et en plus il y a ce truc que Elden Ring est malin d'utiliser, c'est le coup de la map qui s'est tenté. Au début, t'es dans un carré, tu vois rien, elle est sombre, et il faut récupérer des bouts de cartes pour ensuite la remplir. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est centré, ça se décentre au fur et à mesure, et tu vois qu'en fait, c'était pas ça, ta vraie carte, en fait, c'était pas ça. Le monde est beaucoup plus vaste que tu ne le crois, et c'est toujours l'idée qui est entretenue par Elden Ring.
D'accord.
C'est presque Elden Ring 2 pour moi.
Bah écoute, quand j'aurai terminé Golvelius, peut-être que j'attaquerai Bloodborne.
Ah, et je vois une parenté entre les deux.
J'ai pas encore fini Golvelius, mais je m'en rapproche, il me manque un cristal. Autant te dire que j'en chie des briques, c'est hyper dur.
Ah bah écoute.
J'abuse du rewind, j'abuse des save states, comme Jaja. J'ai essayé d'y jouer à la régulière, c'est pas possible quoi.
Les boss, ils sont trop durs et tout.
Ah mais si avec les boss, mais même sur l'overworld, il y a des passages où je me fais agresser de partout, je suis là, c'est pas croyable. Et ouais, non, sans tricher, c'est dur.
C'est ta dernière chance de laisser tomber.
Tu déconnes ? On est à 5 contre 1.
C'est 3 contre 1.
Et comment tu comptes ?
Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
Tu sais ce que j'ai fait là pendant ces deux dernières semaines ? J'ai relu les X-Men de Bendis. C'est ouais. Un truc que j'ai jamais fait. En fait, je relis Bendis parfois avec 10 ans après. Et en général, j'aime pas les runs de Bendis. Je suis pas fan de ce qu'il fait.
Moi, je trouve que Bendis est un des auteurs les plus surcotés ever.
Alors, je pense pas qu'il est surcoté parce qu'il a quand même vraiment eu beaucoup de succès et justifié parce que c'est le mec qui dit. On fait les Avengers, donnez-moi Wolverine, donnez-moi Spider-Man et on va vraiment faire les Avengers. C'était pas con, en fait, quand tu vois rétrospectivement.
Mais moi, je trouve que Bendis, il a de très bonnes idées, mais qu'à chaque fois, ça part en autre boudin super vite, en fait. C'est ça que je lui reproche.
Il sait pas trop les exploiter et souvent, parce qu'il y a des gens qui sont assez malins, qui passent derrière et qui font Leila Miller, ce personnage, ça peut être intéressant et du coup, ils font des choses intéressantes avec. Et là, en l'occurrence, j'ai relu ces X-Men et ils se lisent assez bien, en fait, avec le temps, puisque le concept de ces X-Men, c'est il écrivait deux titres X-Men en même temps. Il écrivait All New X-Men, qui est un concept de base, c'est que Beast d'aujourd'hui retourne dans le passé et récupère les 5 X-Men originaux et les ramène dans le futur pour leur montrer que à quel point Scott Summers a déconné, à quel point ils sont en train de risquer un génocide mutant et tout ça. Et évidemment, les cinq jeunes qui débarquent sans l'expérience sans beaucoup d'expérience, tout d'un coup découvrent que, ah ouais, en fait, c'est vraiment le bordel et en principalement à cause de Scott Summers. Donc, il y a Scott Summers qui rencontre du passé, qui rencontre celui du futur. Mais en fait, et ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est celui où, justement, il y a Scott Summers adulte et il est avec Magic, White Queen, Magneto. Et en fait, ils font d'une école parallèle à celle de Logan, mais dans un bunker, en fait, dans l'Alaska. Le bunker de Weapon X, justement. Ils se sont dit, bah, c'est de là-bas, personne ne nous cherchera. Et bon, je trouve que, évidemment, ça finit un peu en autre boudin. La révolution, finalement, c'est juste Scott Summers qui dit, qui fait un discours à la fin pour dire qu'il regrette ce qui s'est passé. Ce qui est pas génial. Mais par contre, il y a des moments assez intéressants. Par exemple, je trouve que voir Scott Summers jeune, qui débarque du futur et qui tout d'un coup, il est dans l'espace et tout d'un coup, on lui dit, ah, mais en fait, Il y a Christopher Summers, en fait, il y a ton père qui est là, le père qu'il a jamais connu, en fait, et ben il se dit ben je vais peut-être le connaître, et du coup il part en virée dans l'espace donc avec Corsair, son père, mais là c'est son père du futur, c'était plutôt pas mal. Je trouve que la manière dont il a traité Jean Grey, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend les pouvoirs télépathiques beaucoup trop tôt et qui abuse de son pouvoir, elle lit l'esprit des gens alors que les gens ne le permettent pas, c'est assez c'est pas mal vu. Et il y a un truc un peu important, ce qui survient, c'est que Iceman, elle va lire l'esprit d'Iceman et elle va comprendre pourquoi Iceman n'a jamais été intéressé par Jean Grey. C'est que Iceman, en fait, est gay. Alors que le Iceman du futur, le nôtre, il n'est pas gay. Et donc, il va confronter les deux. Iceman, du jeune, va reconnaître son homosexualité. Il va confronter celui du futur. Et évidemment, il est au placard, en fait. Et donc, il y a cette confrontation qui est un peu malaisante parce qu'elle est basée sur le fait que Jean Grey, en fait, elle abuse de son pouvoir pour lire l'esprit des gens, ce qu'on ne devrait pas faire. Les jeunes, ne faites pas ça chez vous. Et, Et pourtant, ça, c'est vraiment la fin de son run. Et je trouve que, honnêtement, j'étais pas ouf à l'idée de qu'il fasse un truc comme ça. Mais ce que les auteurs ensuite sont venus faire, ensuite de l'affirmative action de Iceman en disant, je suis mutant, je suis homosexuel, mais en même temps, je sauve le monde aussi. Je trouvais ça pas mal. Et je trouve qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites à partir de là. Et, rétroactivement, c'était sur le moment, j'étais un peu choqué par l'idée. Mm-hmm. Et en fait, finalement, pourquoi pas, quoi. It makes sense. Et je trouve ça assez cool qu'il y ait un mec du cast original qui ait autant de panache, quoi. Et puis, je trouvais ça intéressant aussi qu'il fasse tout un run d'X-Men sans vraiment utiliser Wolverine. Wolverine qui était dans une autre comics qui avait sa propre école qui s'appelait le comics s'appelait Wolverine vs X-Men que j'ai relu par contre il y a quelques années. Et qui par contre est vraiment délirant, assez drôle et tout ça. Enfin, j'avais adoré à l'époque. Mais voilà, j'ai relu Bendis et je me demande si après tant d'années, je me reconfronterai pas à Ultimate Spider-Man.
Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas lu Ultimate Spider-Man. Il paraît que le run de Ultimate Spider-Man actuel est super.
Bah ouais, moi je veux relire celui de Bendis parce que c'est quand même lui qui a créé quand même Miles Morales. Ouais. C'est lui qui a tué Peter Parker dans le Ultimate. Il l'a créé, il tuait Ultimate Peter Parker. Et je voulais savoir si ça se tient avec le temps, quoi.
Écoute, tu te rappelles que j'avais lu tout Spider-Man, mais vraiment tout. Et il y a 6 ou 7 ans maintenant, et ça incluait Ultimate. À l'époque, ça se tenait encore.
C'est le problème de son style d'écriture, c'est que c'est très décompressé. Mmh. C'est-à-dire que quand, dans un numéro, Stan Lee et Ditko te donnent les origines de Spider-Man, pourquoi il porte son costume, pourquoi il a ça, pourquoi il est... qui est Spider-Man, il te le donne en un numéro. Là, tu vas l'avoir en 6 numéros. Si tu as 6 numéros et que tu as la toile à la fin, t'es bien content. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout est décompressé, il y a des phases de dialogue. C'est son truc, ça. Les dialogues, il y a beaucoup de dialogues. Genre, tout d'un coup, il va être avec Mary Jane dans sa chambre et ils vont parler pendant des plombes. Et ça va être un numéro entier. Et j'ai rien contre les numéros où les gens discutent et tout ça. Mais il va le faire énormément. Et c'est un mec qui fait plutôt des dialogues. Et j'ai hâte de... En fait, j'ai hâte de le relire.
Le bois ne rend pas les coups.
After était un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance quand même nos recommandations. Benji, c'est à toi.
Alors, c'est une recommandation à tiroir. J'avais déjà dit que j'écoutais le Floodcast. J'ai un peu mis en pause parce que ensuite, je me suis mis à écouter d'autres podcasts et je me suis un peu envoyé les intégrales. Parce que le Floodcast, j'ai rattrapé quand même 8 saisons en l'espace de quelques semaines. Donc, à un moment, je me suis dit peut-être faire une petite pause. Et du coup, j'ai écouté un podcast qui était recommandé par Méniel qui s'appelait Dead Eyes.
Tu peux dire Adrien, mais tu peux dire son nom, tu sais.
Ouais, mais dans le milieu, on l'appelle Méniel. d'ailleurs, que je salue, hein, je sais pas s'il nous écoute, je pense qu'il nous écoute pas, mais je le salue quand même. Donc, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Dead Eyes, qui avait été recommandé donc par Adrien Méniel, et qui raconte l'histoire de ce comédien qui s'est fait recaler d'un casting pour... Band of Brothers et qui s'est fait recaler vraiment dans les dernières étapes, genre la veille du jour où ils étaient censés commencer à tourner ou un truc du genre. Et a priori, c'est parce que Tom Hanks avait vu son audition et avait dit qu'il avait des yeux morts, dead eyes, et qu'il avait été rappelé pour repasser un casting devant Tom Hanks et qu'il n'avait pas été retenu. Et il essaie de comprendre en fait comment ça a pu se produire, comment l'acteur le plus apprécié au monde a pu sortir une horreur pareille, comment est-ce que il en est arrivé à entendre qu'au final il aurait des yeux morts. Mais c'est pas de ce podcast que je veux parler parce que je n'ai pas fini de l'écouter. Parmi ses invités, faut quand même savoir que Dead Eyes c'est un podcast super intéressant où au final le mec arrive à avoir des invités incroyables parce qu'au final il a quand même des relations. Genre le type, il était dans une pièce de théâtre au lycée avec John Hamm. Dès le deuxième épisode, il a John Hamm en invité, excusez du peu, mais il arrive quand même à avoir des gens assez fous. Donc Dead Eyes, ça pourrait être une reco, je pense que je le recommanderais probablement quand j'aurai fini tout écouter. Mais dans Dead Eyes, à un moment, il a une invitée qui s'appelle Starly Kine. Et Starly Kine, c'était l'animatrice et productrice d'un podcast qui s'appelle Mystery Show. Et Mystery Show, c'est un podcast qui malheureusement n'a connu que 6 épisodes et qui a été ensuite immédiatement annulé par la boîte de prod qui s'en occupait, qui s'appelle Gimlet Media, qui est une boîte de production de podcasts américaine. Et Mystery Show, ce qui est fou, c'est que ça a été annulé alors que ça a été nommé parmi les meilleurs nouveaux podcasts de l'année où ça a été produit, donc c'était en 2015, que Starly Kine pensait qu'elle allait pouvoir faire une saison 2, mais que non, Gimlet a expliqué que Mystery Show était impossible à continuer à produire de manière permanente. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça coûtait trop cher. En tout cas, le principe de Mystery Show, c'est qu'à chaque épisode, son animatrice, donc Starly, essaye de résoudre un mystère. Et à chaque fois, c'est un petit mystère rigolo. Et le principe, c'est qu'elle dit que c'est un mystère qui n'est pas solvable uniquement en faisant des recherches sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas utiliser Internet pour faire des recherches pour essayer de résoudre le mystère. Mais globalement, elle a besoin notamment de se rendre sur place pour certains mystères. Alors, pour donner un exemple de mystère, par exemple, le premier épisode, il y a une amie de Starly qui s'appelle Laura, qui devient membre d'un vidéoclub qui loue un film et qui, le lendemain, essaye de ramener la cassette au vidéoclub, sauf qu'elle se rend compte que le vidéoclub a complètement disparu. Genre, l'immeuble où était le vidéoclub, maintenant, il n'y a plus aucune trace du vidéoclub. À l'intérieur, il n'y a plus une seule étagère avec des cassettes vidéo. Tout a disparu. C'était vraiment... Alors que la veille, il n'y avait aucun élément qui lui permettait de se rendre compte. Tu vois, il n'y avait pas le moindre panneau derniers jours avant fermeture ou quoi que ce soit. Et voilà, donc elle essaie de résoudre le mystère de ce vidéoclub qui disparaît. Le deuxième épisode, une amie à elle qui s'appelle Andrea, qui est écrivain, qui a eu un petit peu de succès avec son premier bouquin et qui malheureusement avec son deuxième bouquin a connu un bide phénoménal, un jour voit une photo de paparazzi de Britney Spears avec son bouquin sous le bras. Et elle essaie de comprendre le mystère de comment est-ce que Britney Spears a eu connaissance de ce bouquin. Voilà, donc c'est des mystères du quotidien et à chaque fois c'est un petit peu rigolo et c'est super rigolo à écouter, c'est super intéressant à écouter. Donc voilà, Mystery Show, il y a que 6 épisodes, c'est en anglais mais c'est un anglais qui est globalement assez simple à comprendre. Hein. On est loin de quand j'avais recommandé S-Town avec des gens qui avaient des accents improbables. Donc voilà, ça date de 2015 et comme c'est intemporel, ça reste super agréable à écouter. Et puis Starly, l'animatrice, a vraiment un côté super gentil. Super sympa, ça donne un peu de baume au cœur en fait. C'est un peu une reco Blue Sky, si tu vois ce que je veux dire. Ça met un petit peu de bonne humeur à écouter.
Blue Sky, je connais, c'est Sega.
Voilà, Blue Sky.
Pour ma part, je vais recommander un film qui s'appelle Elias. Est-ce que tu en as entendu parler? C'est un film de Florent Emilio Seri.
Ça me dit rien. Par contre, Florent Emilio Seri, c'est un nom qui me parle, oui.
Ouais. Et bah, du coup, c'est un actionneur avec Roche Dizem. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et à un moment, il saute sur un gars pour tuer le mec avec un parasol. Il l'empale le mec avec un parasol.
Ok, n'en dis pas plus, je veux voir ce film.
C'est vraiment le bloc. C'est vraiment un peu l'héritier. Les gens diraient Jason Bourne. Et je pense qu'ils n'auront pas tort. C'est vraiment de l'action à la Jason Bourne. Mais c'est plutôt assez bien découpé. Les scènes de baston sont vraiment bien.
Ouais.
Et quand ça bastonne, quand il y a des clés de bras et tout, c'est vraiment pas mal. Et donc, c'est l'histoire d'un mec un peu bourru, traumatisé par la guerre, traumatisé, il a été torturé et tout. Et là, il est dans une mission spéciale où il doit protéger une femme et sa fille. Et en fait, il va se rendre compte qu'il va devoir lutter contre des forces un peu plus balèzes et c'est tout ce que t'as à savoir. Il y a rien de plus, il y a pas de backup et tout. Il y a un petit côté vraiment satisfaisant dans le découpage, dans la réal, dans la manière dont c'est fait. Le plot, il vaut ce qu'il vaut, mais je le trouve plutôt efficace dans son genre. Il essaye de faire des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, en tout cas dans le ciné français. Et en fait, ça me fait plaisir de voir un cinéma de genre français avec de la baston qui tape, quoi. Et je dois te dire, Roche Dizem en Denzel Washington dans Equalizer, c'est un truc. Pour moi, c'est comme une invitation au sexe, quoi. C'est vraiment, je trouve ça surpuissant. Vraiment, il fait des clés de bras, il tue de manière avec des cuillères. Enfin, vraiment, c'est vraiment le genre de truc que t'as envie de voir.
Tu sais que moi, la dernière œuvre réalisée par Florent Emilio Seri que j'ai vue, c'est la série Marseille.
Ah, c'est vrai qu'il a réalisé Marseille.
Ouais.
Ah, c'était pas bien.
Bah non. Ouais.
Oui, mais oui, en plus, on lui a consacré un épisode.
Ah bah, Marseille, C'était au début d'After Eight, hein, mais on en avait longuement parlé de cette série.
C'était pas bien.
Non, c'était pas bien.
C'était pas bien, mais tu sais quoi ?
Ça donnait pas envie de se toucher le zob en parlant de Picasso.
Mes amis américains disaient que ça valait le coup parce que le sous-titrage était exceptionnel. Donc, est-ce que tu confies ? Ils disaient, mais c'est insane.
Je t'avoue que j'ai pas regardé avec les sous-titres, mais peut-être que ça aurait valu le coup. Après, j'ai jamais... Est-ce que t'as regardé la saison 2 de Marseille ? Parce que moi, je m'étais arrêté là, hein, en fait.
Mais il paraît que la saison 2, elle est genre pas fun.
Elle est pas comme... rigolote, ouais.
Elle est pas rigolote comme le Marseille, la série L'Art, quoi. Mm. Bah écoute, on va pas recommander Marseille. On va dire à nos amis merci de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, c'est After Eight sur patreon.com/RPU pour soutenir un peu After Eight à la hauteur que vous le voulez. Vous pouvez retrouver notre podcast sur toutes les applis dédiées et bien entendu sur notre site Rien qu'à nous. Et Benji, je pense qu'on se couche de beaucoup plus bonne humeur. Enfin, moi, en tout cas, je me couche parce qu'il est 1h du matin.
Voilà, moi, je vais pas me coucher tout de suite, mais oui, je me coucherai de meilleure humeur, c'est sûr.
Je me couche de meilleure humeur que je m'étais réveillé. J'ai fait des cauchemars avant même.
Ah, moi, j'étais pas serein. J'en étais pas à faire des cauchemars, mais j'étais pas serein.
Ce qui est bizarre dans le cauchemar que j'ai vécu, c'est que j'ai fait le cauchemar et je me voyais me réveiller dans le cauchemar et essayer de gérer ce qui se passe dans le cauchemar alors que j'étais encore endormi et c'est le cauchemar qui se poursuivait. C'est vraiment... J'étais prisonnier dans mon cauchemar.
Est-ce que ton cauchemar, c'était Eric Ciotti qui te poursuivait ?
Non, mais c'était... mais pas loin. Je perdais un bout de mâchoire. Enfin, un truc vraiment, vraiment global. Vraiment, vraiment glauque, quoi. Mais peut-être que c'est la faute à Roche Dizem. Hein. C'est peut-être d'avoir vu des...
C'est jamais la faute à Roche Dizem. Ouais.
Non, j'adore Roche Dizem. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao !
Gros bisous. J'ai pas le jingle sacré soirée, je m'y attendais pas, je t'avoue.
Papa. Sacré soirée.
Tu te rends compte qu'on parle potentiellement à des auditeurs qui n'ont jamais connu Jean-Pierre Foucault ?
C'est pas possible parce qu'il présente encore les Miss.
Ah, autant pour moi, du coup, ils connaissent
encore Jean-Pierre Foucault. Alors, après, il faut
par contre, ils n'ont jamais connu Sacré Soirée, ça, c'est sûr.
Oui, mais il faut qu'ils aient vu les Miss, tu vois. Et genre, c'est pas... Moi, je ne regarde pas les Miss, tu vois. J'ai pas que sa faute, quoi.
Ouais, mais les Miss, je pense que c'est un peu comme l'Eurovision ou des trucs comme Marie au premier regard. C'est le genre de truc que les gens matent pour les commenter. Genre, si tu regardes notre Discord, il y a des émissions comme ça, genre, oui, voilà, Marie au premier regard, Le Bonheur est dans le Pré, tout ça. Les gens, ils regardent et ils commentent et... Moi, perso, je me marre bien en lisant les commentaires. En revanche, c'est des émissions que je ne peux pas regarder depuis l'étranger, donc je m'en passe. Sacré Soirée s'est donc arrêté en 2009.
Ah, 2009 quand même.
Donc, c'est-à-dire que... Ouais, mais ça veut dire que les gens qui avaient...
J'aurais dit avant les années 2000.
Ah non, non.
Mais c'est pas genre ils ont fait un revival pendant quelques numéros,
ils ont fait un revival de 2007 à 2009. Sinon, ça s'est arrêté en 94.
94, c'est bien ce que
Mais il y a eu un revival de 2007 à 2009. Donc, ça veut dire que potentiellement, des gens qui nous écoutent ont pu connaître.
Peut-être.
Il y a aussi potentiellement des gens qui ont notre âge et qui nous écoutent et qui ont forcément connu, ça c'est sûr.
Mais quelle chance vous avez, quelle chance vous avez.
Et alors ce qui est marrant, c'est que sur IMDB, parmi les stars de Sacrée Soirée, donc t'as évidemment Foucault, mais t'as aussi Didier Derlich. Qui se souvient de Didier Derlich ?
Ah, moi je me souviens, parce qu'il est mort du sida, c'est un des, en France, quelqu'un qui est de notoriété publique, qui est mort du sida à l'époque où ça se disait pas trop.
Ouais.
Et ouais, non, c'était, ouais, mais moi, je veux dire, j'en ai rien à foutre de l'astrologie et tout ça, et genre, je trouve que c'est une arnaque et tout. Et donc, de fait, c'était un arnaqueur, mais je suis triste pour lui qu'il soit décédé dans ces conditions-là, en tout cas.
Et oui, il est décédé en 2000.
Ouais, de AIDS. Mais oui, non, non, mais il y avait qui d'autre? Je me souviens qu'il y avait à la fin de Sacré Soirée, il y avait le tirage au sort. Il y avait le tirage au sort de ta date de naissance. Et donc, t'imagines tous les gens qui appelaient. Genre, ouais, je suis du 13 décembre. Bon, ouais. Bah écoute, Baptiste, on t'a filé du bonus. Hein. C'était pas voulu. Allez, on se lance.
Une production RPU.